Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Quelques heures après le déferlement de vagues monstrueuses sur les plages de l'île indonésienne des Célèbes, nous tenterons de dresser le bilan des victimes du tsunami issu d'un violent séisme avec Joël Bronner à Jakarta. Aux États-Unis, la nomination à la Cour suprême de Brett Kavanaugh s'apparente à un chemin de croix pour Donald Trump à 5 semaines des midterms, analyse d'Éric Biegel. Le navire de sauvetage, l'Aquarius, stationne à quelques milles de Malte. À son bord, 58 réfugiés, l'équipage est à bout. Témoignage dans cette édition d'un marin joint ce matin par l'équipe de Caroline Brouet. Et puis Mésange, c'est l'acronyme de la bulle éco signée Marie Viennot. Les premières images des destructions causées par le tsunami qui a balayé hier l'île indonésienne des Célèbes témoignent de la puissance des vagues qui ont déferlé sur les plages de la ville de Palu, 350 000 habitants. Selon le porte-parole de l'agence de gestion des catastrophes, des centaines de personnes sont mortes, 384 morts selon un dernier bilan, et les hôpitaux locaux peinent à faire face à pareille urgence. Les précisions de Jakarta, de Joël Bronner de RFI.
Les secours l'avaient rapidement annoncé face à la double catastrophe d'un séisme suivi d'un tsunami. Ils ne savaient pas combien de cadavres ils auraient au bout du compte à déplorer précisément. Au fur et à mesure que des militaires indonésiens arrivent dans la zone sinistrée, au fur et à mesure que de l'aide provient d'autres grandes villes de cette même île des Célèbes, au fur et à mesure que les décombres de certains bâtiments effondrés sont fouillés, le compte macabre du nombre de victimes ne cesse, lui, d'augmenter. Sans que personne ne sache vraiment quelle est l'ampleur exacte de la catastrophe naturelle qui vient de s'abattre avec fracas sur cette île que les Indonésiens appellent Sulawesi. Pour ne rien arranger, la géographie très montagneuse de l'île et la détérioration de nombreux moyens de transport, comme les routes ou l'aéroport, notamment près de la ville de Palu, ainsi que des dégâts affectant les moyens de communication, compliquent et ralentissent la tâche déjà ardue des secours. Avec une magnitude de 7,5 sur l'échelle de Richter, ce séisme est plus puissant que ceux qui ont frappé Lombok le mois dernier et qui avaient causé plus de 500 morts sur cette île touristique proche de Bali. En revanche, ce tremblement de terre reste malgré tout nettement moins intense que celui de 9,3 qui avait causé un tsunami au large d'Aceh, à Sumatra, c'était en décembre 2004. À l'époque, plus de 160 000 personnes avaient péri des suites de cette colère naturelle. La rencontre dans le sous-sol indonésien de trois plaques tectoniques explique en partie la régularité des éruptions volcaniques et des séismes qui secouent fréquemment cet archipel du sud-est asiatique.
Les États-Unis ferment leur consulat à Bassora, fermeture temporaire selon Mike Pompeo, qui à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies a ciblé Téhéran. Le secrétaire d'État américain attribue à la force Al-Quds des gardiens de la Révolution la responsabilité des manifestations meurtrières qui se multiplient dans ce sud irakien depuis le début du mois. À 5 semaines des élections de mi-mandat, l'administration Trump a bien d'autres préoccupations que les vertigineuses difficultés des populations du sud d'Irak. La politique étrangère, en plus, n'a jamais vraiment pesé dans les urnes américaines. Donald Trump a par contre tout à perdre dans le dossier Kavanaugh. Brett Kavanaugh, le candidat à la Cour suprême, dont le Sénat doit confirmer la nomination, est accusé d'agression sexuelle. Au terme d'une audition hier au Sénat, le président américain a dû ordonner une enquête complémentaire, le FBI, à 7 jours pour rendre sa copie. Bonjour Éric Bigala.
Bonjour Mathieu.
Éric, à 5 semaines des midterms, Brett Kavanaugh, enjeu politique.
Oui, c'est peu de le dire. Le sort de Brett Kavanaugh, qu'il soit confirmé ou non à la Cour suprême, est devenu un enjeu de politique pure aux États-Unis. À l'occasion de sa dernière enquête d'opinion publiée il y a 3 jours, le Pew Research Center l'affirme. Pour 76% des Américains, cette nomination à la Cour suprême est le sujet qui pèsera le plus lourd dans l'appréciation par l'électeur américain du type de bulletin qu'il glissera dans l'urne en novembre prochain à l'occasion des midterms, les législatives de mi-mandat. Alors que Brett Kavanaugh siège in fine à la Cour suprême ou non, déterminera en priorité le vote de 3/4 des Américains interrogés par le Pew devant les problèmes de santé publique ou même devant les problématiques économiques. Et sur cette question, l'électorat féminin surtout est particulièrement remonté contre le parti républicain. Et c'est une première. Selon 2 autres enquêtes d'opinion, en effet, commandées par des médias conservateurs, le Wall Street Journal et la chaîne Fox News, ces derniers jours, les 2/3 des femmes américaines se disent aujourd'hui prêtes à voter démocrate plutôt que républicain. Des intentions de vote qui jusque-là étaient beaucoup plus proches du 50-50 il y a encore quelques semaines. Quant à la personne de Brett Kavanaugh, devenue particulièrement clivante, 55% des femmes américaines se disent aujourd'hui opposées à sa nomination à la Cour suprême.
Merci à vous Eric Biegala. À Gaza, le dernier bilan fourni par les services de santé est de 7 morts. 7 manifestants abattus par l'armée israélienne lors des manifestations organisées chaque vendredi contre la frontière. Cet été, ces manifestations avaient baissé d'intensité, mais l'impasse politique et les échecs répétés des amorces de négociations ont, semble-t-il, conduit le Hamas à choisir d'accentuer la lutte. Étienne Monin vous appelle de Jérusalem.
Ce nouveau pic de violence arrive à un moment où le Hamas manifeste de la colère et de la frustration. Cet été, le mouvement s'est engagé dans un cycle de négociations encadré par les Égyptiens. C'était le résultat d'une importante montée de la violence au mois d'août. Mais les multiples rencontres n'ont rien donné. Le Hamas est resté les mains vides. Il a tout récemment attaqué le président palestinien jugé responsable de l'impasse dans laquelle le mouvement islamique reste figé. Depuis, les manifestations à la frontière se sont démultipliées. Elles ont lieu de façon quotidienne et nocturne. Elles sont utilisées comme un levier populaire par le Hamas pour tenter de mettre la pression sur Israël et sur la communauté internationale. Ce vendredi était une journée test pour mesurer la détermination du Hamas à chercher une avancée par la confrontation.
Pas plus tard qu'hier à la tribune de l'ONU, le chef de la diplomatie hongroise éreintait le pacte migratoire des Nations Unies. En quelques mots, le texte considéré comme le premier document international sur la gestion des migrations recense une série de principes, défense des droits de l'homme, droits des enfants, et dresse une liste de mesures pour aider les pays à accueillir les réfugiés. Les États-Unis ont refusé de le paraffer, puis la Hongrie s'en est retirée. Hier, Peter Szijjártó, chef de la diplomatie hongroise, a lancé « Ce pacte suggère qu'une société pluriculturelle est meilleure qu'une société homogène. Nous exhortons la communauté internationale à y mettre fin. » Fin de citation. En attendant, les embarcations de fortune sombrent en Méditerranée et rares sont les navires de sauvetage à pied d'œuvre. L'histoire se répète d'ailleurs pour l'Aquarius. Le navire de SOS Méditerranée à Malte dans les Jumelles, à son bord 58 personnes secourues ce matin. Caroline Brouet avait en ligne un marin de l'Aquarius. Le navire, rappelons-le, a été refoulé de Marseille. Bonjour Laura Dulieu.
Bonjour.
Laura, c'est l'abattement qui gagne l'équipage.
Oui, l'abattement car l'Aquarius est en ce moment à 25 km des côtes maltaises et attend depuis mardi soir dans les eaux internationales. Une attente sous une météo difficile, c'est ce que racontait ce matin Ludovic du Quai Pérou. Il est marin sauveteur à bord du navire.
Il fait froid, ben, quasiment tout le monde est malade, il y a le mal de mer, on a 5 mètres de houle, il fait mauvais depuis mardi soir. Donc les gens sont d'une patience absolument incroyable, parce qu'ils dorment à même le pont, ça bouge beaucoup, le franc-bord est pas haut, c'est pas un navire à passagers, hein. C'est un navire de travail, l'Aquarius à la base, donc ça demande beaucoup d'attention, c'est dangereux.
Malgré tout, l'Aquarius continue de tourner en rond, une situation honteuse pour le marin sauveteur.
J'ai honte, on parle de chiffres, on parle de migrants. Et nous, on voit des enfants avec des petits dans les bras de leurs parents qui sont en train de se noyer, tout simplement. On voit des gens qui sont pleins d'essence. On a des cris. On a des gens qui dérivent depuis des jours sans nourriture, sans toilette. Que leur dire ? Que leur dire ? Je sais pas. Pardon. Désolé. C'est honteux. C'est honteux parce que c'est pas les valeurs, c'est pas nous, c'est pas ça l'Europe.
Et l'Europe, dont le marin invite les citoyens à venir sur le bateau, se rendent compte par eux-mêmes de la situation.
Venez, on vous prête des bottes, on vous prête un casque, un ciré, venez. Et je vous assure que tout changera parce qu'il y a une forme de déshumanisation. Nous on a des humains, on a des enfants sur le pont, qui sont pas sages, qui courent partout, qui nous mettent de la vie, qui sont... Donc, juste pardon, sous raison politique, on ne peut pas franchir une ligne imaginaire à 12 000 de Malte. Parce que moi, je suis un bon petit Français, moi j'ai le droit d'y aller, je peux rentrer, je peux naviguer, je peux aller où je veux. Mais vous, par contre, bah non... Apparemment, votre vie vaut moins que la mienne, donc désolé.
Ludovic du Quai Pérou, très amer, car la situation ne s'arrange pas. Si les départs depuis la Libye diminuent, la proportion de morts, elle, a explosé. De 1 mort pour 42 départs en 2017, on est passé à 1 mort pour 18 départs entre juin et août 2018.
Merci à vous, Laura Dulieu. Week-end de mobilisation sur la ZAD, 4 mois après l'opération d'expulsion musclée sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui s'est terminée par la destruction de plusieurs lieux de vie. Le processus de régularisation des situations des habitants de la ZAD mené avec l'État se poursuit. 15 conventions d'occupation précaire ont déjà été signées. D'autres pourraient l'être le 12 octobre prochain, lors du prochain comité de pilotage. Sous l'égide de la préfète de Loire-Atlantique, Nicole Klein, plutôt satisfaite de l'avancée du dossier, elle répond à Véronique Roberotte.
Ça avance normalement. Il y a des contacts entre ce qu'on a appelé les zadistes et les services de l'État pour rentrer dans les clous.
La vision que vous avez de la ZAD aujourd'hui, c'est une ZAD apaisée, où effectivement les gens qui ont des projets sont là et les défendent, c'est ça ou c'est plus compliqué que ça?
Non, c'est ça, avec à l'intérieur certainement des accords entre des modérés et puis des plus radicaux, mais avec une majorité de modérés qui ont envie de vivre là, à leur manière, et l'État ne les empêche pas de vivre à leur manière tant que, encore une fois, un minimum de règles sont respectées.
Rétrospectivement, vous vous dites qu'il fallait une intervention comme il y en a une au printemps, un peu musclée.
Avec des scies, je pense que ça a quand même montré aux gens qui habitaient là qu'ils ne pouvaient pas continuer de vivre tout à fait comme ils vivaient. Et de toute façon, le projet d'aéroport était abandonné, clairement abandonné. Donc il fallait eux aussi qu'ils fassent leur travail de deuil, qu'ils se mettent dans une situation nouvelle et qu'ils construisent leurs rêves différemment. C'était un lieu très particulier, ce sera toujours un lieu particulier, mais à côté duquel on pourra vivre et dans lequel on pourra vivre.